fidèles auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et des 7 télévisions partenaires du studio Kalungu. Bonsoir et bienvenue dans le forum de ce soir. L'émission qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez habituellement. La démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques est notre thème de ce soir. Le 15 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la démocratie. Une journée commémorant la Déclaration universelle sur la démocratie, adoptée le 15 septembre 1997 par l'Union interparlementaire. Au Niger, l'avènement de la démocratie fut marqué par l'organisation de la Conférence nationale souveraine, dont les travaux ont été officiellement lancés le 29 juillet 1991 à Niamey. Comme on le verra plus en détail au cours de ce forum, la démocratie est un système politique dans lequel les citoyens sont les vrais détenteurs de la souveraineté. Ainsi, la Constitution du 25 novembre 2010 proclame dès son préambule l'attachement du peuple nigérien à la démocratie. Il est ainsi écrit « Nous, peuple nigérien souverain, exprimons notre profond attachement au principe de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi qu'aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger. Fin de citation. Quelles sont les grandes valeurs de la démocratie et les bonnes pratiques à promouvoir en vue de son bon enracinement au Niger? Quelle doit être la contribution de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de ces pratiques? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Mahamman Bacha. Il est juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Elhaji Idi Abdou, acteur de la société civile, et Abdoulaye Seydou, également acteur de la société civile. Il est le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD. Par ailleurs, il est le coordonnateur du mouvement M62. À la modération du forum de ce soir, je suis Michel Deji. Une fois de plus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour ce forum du studio Kalungu de ce soir, dont le thème est « La démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques ?» Au Niger, le concept de la démocratie est enseigné en philosophie à partir de la classe de terminale. Par rapport à sa signification et son importance, suivons cet éclairage de Laoli Abdoulimam, philosophe de formation et inspecteur pédagogique de philosophie à l'inspection pédagogique régionale de Niamey. Il est joint au téléphone par le studio Kalungu.
La démocratie est généralement définie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est vraiment le gouvernement où la souveraineté appartient au peuple.
Et quelle est l'importance de cette démocratie?
Il y a plusieurs raisons, en fait, qui montrent la légitimité de la démocratie et donc qui montrent son importance. La première, c'est que seule la démocratie instaure vraiment les conditions institutionnelles de la libre participation de tous les citoyens à la vie politique, notamment par l'expression du vote. Ils peuvent donc élire leur chef, leurs dirigeants, et ils peuvent aussi être éligibles. Vous voyez, ça, c'est un avantage que d'autres régimes n'offrent pas. La monarchie, par exemple, qui repose sur l'appartenance à une famille.
La famille royale.
Exactement. Tous les Saoudiens ne peuvent pas être rois. Donc là, par exemple, c'est la monarchie. Ensuite, dès qu'il y a la démocratie, vous verrez tout de suite qu'il y a un pluralisme. Pluralisme, par exemple, politique. Il y a plusieurs partis politiques, dont certains de l'opposition, dont le rôle est de s'opposer ouvertement, de dénoncer, par exemple, les travers du régime. Du coup, ils participent à exercer une sorte de contre-pouvoir. Dès qu'on dit démocratie, il y a aussi, par exemple, pluralisme d'expression. Par exemple, vous allez voir, il n'y a pas qu'un seul journal, il n'y a pas qu'une seule voix, mais plusieurs. Vous allez voir beaucoup de journaux dans l'ère démocratique. Vous pouvez le remarquer sur l'exemple du Niger. Beaucoup d'affaires qui ont été dénoncées ou qui n'ont été sues que grâce à la dénonciation de journaux. Ouais. Vous avez également, par exemple, la société civile qui joue un rôle important de contre-pouvoir. La société civile, donc, le rôle n'est pas, par exemple, de chercher le pouvoir, mais qui est là, qui est comme une essence de veille, notamment représentée par exemple par les syndicats, par diverses associations de droits de l'homme. Donc, dès qu'il y a des travers dans ce domaine, ben, ils montent au créneau pour pouvoir dénoncer. Donc, dans un régime démocratique, normalement, n'importe quoi n'est pas permis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des instances de veille qui permettent en fait de déréguler. Cela est extrêmement important parce qu'il participe donc de l'équilibre du pouvoir. Et même si les textes disent que nous sommes un état de droit, il faut une lutte permanente, perpétuelle, afin de pouvoir donc consolider ses acquis et d'atteindre les idéaux.
Bachar, juriste, il a eu à expliquer la définition de la démocratie, mais est-ce que cette démocratie profite réellement au peuple?
Merci Michel. Si vous partez à partir des écrits de Montesquieu, donc Esprit des lois, et vous croisez avec Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social, vous allez voir que la substance en fait, de la démocratie, c'est en fait un idéal. Un idéal qui ne peut être, disons, atteint que par la détermination du peuple lui-même. C'est-à-dire, il dit, pour un peu paraphraser, je vais chercher si dans l'ordre civil, il y a quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai dans cette recherche d'allier ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Fin de citation. Donc, quand vous analysez cette entrée de matière, vous voyez bien que c'est un idéal. Mais cet idéal-là, il est encadré par deux choses. La première, c'est l'aspect corpus, donc qui est textuel, donc la loi. Et le deuxième, c'est l'aspect comportemental de ceux sur qui ces lois-là doivent être appliquées. Donc, de manière schématique, on sait que c'est le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, mais ce peuple-là, c'est lui-même qui a la charge de définir comment il souhaite vivre. Et c'est pourquoi vous avez les deux grandes formes de démocratie. Vous avez la démocratie directe et la démocratie indirecte. La démocratie directe, c'était celle qui était le plus appliquée par ce qu'on appelle les pays de l'Est, c'est-à-dire les pays de gauche qui proclamaient le communisme, le socialisme, donc où le contrôle direct des citoyens sur les institutions était effectif. Donc, il n'y a pas une barrière entre le peuple et ses dirigeants. Et le peuple a le moyen, à tout le temps, de pouvoir révoquer éventuellement les dirigeants lorsqu'il estime qu'ils sont en train de s'écarter de ce qu'il aura donc défini comme mission, ce qu'on appelait le centralisme démocratique quand on était dans les mouvements estudiantins. Donc, ça permet un contrôle réciproque entre les dirigeants et les dirigés. Les dirigeants contrôlent le peuple en faisant appliquer les règles sur lesquelles le peuple lui-même s'est entendu. Et de l'autre côté, le peuple a les moyens de contrôler ses dirigeants lorsque ceux-là sortent du cadre de l'intérêt général ou prendraient donc des mesures qui ne sont pas favorables à l'intérêt général.
Mais nous avons un chemin où, à travers notamment le Parlement, les députés votent les lois.
Oui, la deuxième
au nom des citoyens qui les élisent,
voilà,
puisque tous les citoyens ne peuvent pas être consultés si ce n'est pas référendum.
C'est ça le deuxième principe.
C'est le deuxième principe. Et le deuxième principe, est-ce que tous ces principes-là,
c'est la démocratie indirecte, donc celle-là qui est exercée à travers les représentants élus. Et c'est ce que notre Constitution dit. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus ou par voie de référendum. Et donc, à partir de cet instant-là, nous, pour ce qui concerne le Niger, on a opté pour ce qu'on appelle le système semi-présidentiel, qui fait que le Parlement régente, ou en tout cas fabrique, si je peux le dire entre guillemets, le gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Et par conséquent, il est responsable devant elle. Et c'est pourquoi, dans notre constitution, il est dit, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l'administration et des forces armées. Et le Parlement, par essence, c'est le représentant du peuple. Donc tout mandat impératif est nul. Contrairement à ce que nous voyons, où les élus se comportent comme étant des représentants de leur parti politique. Et finalement, ils font des débats partisans qui obstruent en fait une vision claire de l'intérêt général et qui ne leur permet pas de pouvoir regarder objectivement les problèmes du peuple.
Merci Mohamed Bachar. On va aller très rapidement. D'abord, par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai, il y a des consignes de vote qu'on entend très souvent à l'Assemblée nationale. On dit tel groupe de partis politiques, ce qu'ils appellent à l'Assemblée les groupes parlementaires, donne telle consigne de vote, votez pour El Hadji Diabdou. Quel est votre avis par rapport justement à cette manière de pratiquer la démocratie que nous vivons, qui nous est aujourd'hui familière dans la pratique?
Bien, merci. Je vous remercie pour cette opportunité. Mais c'est en violation de la loi. Il avait bien souligné que tout mandat impératif est nul. C'est pas la nation qui a élu des députés, c'est des régions qui ont élu, mais on dit qu'ils sont députés nationaux.
Bien sûr.
Ça veut dire que tout mandat impératif est nul. Maintenant, leur pratique est en violation de notre propre constitution. On l'avait relevé à maintes reprises.
Si ce n'est pas conforme à la loi, malheureusement, pourquoi ça n'a jamais été, déclaré illégal, cette manière de faire par des institutions?
Qui va le déclarer illégal?
Parce que normalement,
qui peut le déclarer illégal, c'est la Cour constitutionnelle, et qui l'a saisi, c'est eux ou c'est le gouvernement. Et ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt du gouvernement, il n'a pas intérêt à dénoncer ce qu'ils font. Parce que, vous avez vu, c'est une majorité mécanique qui n'a rien à voir avec réellement la démocratie représentative. L'indirect, là, c'est la démocratie représentative. En réalité, c'est à l'occasion des élections, même dont l'honnêteté laisse à désirer, qu'il parle de représenter. Une fois élu, il oublie le peuple. Il devient un pendant du gouvernement. Or, c'est parce qu'on sait qu'un gouvernement est appelé à faire des dérives. C'est pour cela qu'on a évidemment créé le Parlement, les représentants du peuple. On dit c'est eux qui consentent l'impôt à notre nom.
Bien sûr, à travers
c'est eux qui votent les lois à notre nom. Donc, normalement, ils devraient écouter le peuple. Mais aujourd'hui, quand vous partez, ils vont dire que, ah, d'abord, vous allez voir quelqu'un qui se lève, il dit c'est le président du groupe, et il demande à ses machins de voter dans tel sens. Ça, ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas se faire à l'Assemblée.
Selon vous, c'est donc une pratique à corriger. Et là, j'ai dit à tout, quand on parle de la démocratie, c'est beaucoup de choses. La démocratie a des pliés. Il y a la question de la séparation des pouvoirs. Il y a la question de la libre participation de tous les citoyens. La transparence dans les élections, l'inclusivité, ça veut dire beaucoup de choses. On parle également du respect de la souveraineté de l'État. Il y a d'autres aspects tels que le pluralisme matière de partis politiques, donc pluralité des médias également. Quels sont les enjeux de chacun de ces piliers pour un peuple?
Oui, on dit communément que la démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple exerce sa souveraineté. Mais là où le peuple n'est pas souverain, on ne peut pas parler de démocratie. Et l'élément le principal, c'est la participation des citoyens dans les prises de décision. Mais ici, qui écoute les citoyens? Même ceux qui sont censés les représenter ne les écoutent pas, à plus forte raison l'exécutif. Donc, en quoi la démocratie, l'idéal démocratique, en quoi elle s'approche de la réalité. Notre idéal démocratique est très loin de la réalité démocratique. Parce que ici, les valeurs de la démocratie, vous savez, les piliers de la démocratie, ce sont les droits et les libertés. Et depuis 2018, ici à Niamey, vous ne pouvez plus manifester. En quoi on est dans un régime démocratique? Quand vous lisez tous les baromètres internationaux à la matière, ils classent notre pays parmi les pays autoritaires. Il n'y a pas de corrélation entre la démocratie et
la
régime
autoritaire. Il y a séparation de pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quand il y a par exemple manifestation,
déjà,
la ville interdit, mais la justice peut
quand
agir
vous parlez
et donner
de,
raison.
Quand vous parlez de séparation de pouvoir, déjà vous avez vu la première violation. Un parlement, un feudé à l'exécutif, il n'y a plus de séparation. Les pouvoirs, ils sont trois. L'exécutif, le législatif
et le pouvoir
et
judiciaire.
Le judiciaire.
Bien sûr.
Vous avez vu déjà, le parlement ne se considère pas comme un pouvoir, mais il se considère comme un pendant de l'exécutif.
Alors que c'est
et
le parlement qui peut même
les
faire
actes
partir
qu'il pose,
le gouvernement.
C'est dans le sens de faire plaisir à l'exécutif. Parce que quelque part, l'exécutif détient le nerf de la guerre. C'est lui qui détient l'argent. La justice, c'est ça. Ici, c'est très compliqué. Vous savez, on est un pays francophone. On a hérité d'un système judiciaire structurellement qui ne garantit pas la séparation de pouvoirs.
Par contre, quand on lit la Constitution, les articles 116, 117, 118 et 119, là-bas, il est dit clairement que la justice est rendue sur l'ensemble du pays au nom du peuple et dans le strict respect de la règle de droit.
C'est l'idéal. Mais la réalité, l'organe qui affecte les magistrats, il est dirigé par le président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature.
Il est dirigé par le président de la République. Mais imagine, les membres sont là, le président parle. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va dire un mot? Et quand Issou est arrivé, il a délogé même le conseil pour l'amener à la présidence. Même les militaires, ils vont à la Cour suprême. Mais lui, quand il est venu, il l'a délogé pour l'amener à la présidence. Déjà, avant de rentrer, vous avez compris que c'est un terrain miné. Et un terrain méconnaissable pour vous. Donc, comment voulez-vous que les gens fassent quoi que ce soit? Et le politique, il y a même des députés dans le Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, les débats se posaient en France.
On les appelle les représentants
en France,
du Parlement.
En France, mais quand vous venez dans l'autre pouvoir, vous avez les deux autres pouvoirs qui font injonction. En quoi vous pouvez parler de la séparation du pouvoir? Si c'est les députés et l'exécutif qui nomment, et souvent, on sait sur quelle base. Donc, ça veut dire qu'on fait chantage. Oui, ils sont indépendants, mais on te dit, bon, voilà. Toi, tu es juge d'instruction. Tu as dit que tu es indépendant, non? On t'a dit d'aller dans ce sens, tu es parti dans l'autre. Mais dans quelques mois, on fait un CSM où on t'amène à la chancellerie ou on te balance ailleurs. Donc finalement, on utilise, le politique utilise ce CSM-là dans sa structure actuelle pour faire chantage.
Merci beaucoup, El Hadji Diabdou, on vous a bien compris. Selon vous, il y a donc des failles qu'il y a lieu de corriger, s'il faut les appeler ainsi. Abdoulaye Seydou du REPAD, à votre avis, quelle appréciation globale aujourd'hui faut-il faire du parcours du Niger en termes de démocratie depuis la conférence souveraine de 1991 à nos jours? Il faut souligner qu'il y a eu quand même la première alternance démocratique avec une passation de pouvoir à deux personnalités à la tête de l'État. Il s'agit de Issoufou Mahamadou et l'actuel président Mohamed Bazoum, même si de ce point de vue également, les avis sont divergents.
Merci Michel. Aujourd'hui, quand on prend de la conférence nationale à aujourd'hui, quand même, et même l'interruption des régimes dits démocratiques, entre guillemets, on en a connu trois en 1999, 2010 et puis 1996. Non, j'ai dit depuis la conférence nationale.
Depuis la conférence 3.
Ça fait 3. Donc,
de l'indépendance à aujourd'hui 4.
Voilà, 4. Mm-hmm. Donc de la conférence nationale à aujourd'hui, ça fait quand même 3. Mm-hmm. Cela, déjà, de mon point de vue, c'est un indicateur important. Mm-hmm. Qui dénote un peu de la souffrance du processus démocratique. Parce que, comme vous avez dit, c'est également l'esprit de notre loi fondamentale en son article 4
qui fait du gouvernement
du peuple par le peuple et pour le peuple l'un des principes fondamentaux de la République Niger qui sont au nombre de 4. Donc le gouvernement du peuple par le peuple, d'accord, le caractère donc république démocratique et sociale, la solidarité nationale et la séparation de l'État avec la religion.
Voilà les quatre principes. Ça, c'est
l'article 4 qui le dit. Les quatre principes fondamentaux de la République. Mm-hmm. Donc déjà, de ce point de vue, quand on regarde les élections au Niger, en tout cas depuis l'avènement de la démocratie, ont toujours été des moments de tension. Mm-hmm. Parce que les processus électoraux laissent à désirer d'avoir la confiance entre les acteurs qui compétissent n'est pas de mise et très souvent les citoyens ne se retrouvent pas assez souvent à travers les résultats. Mais il faut aussi dire même l'éducation citoyenne, comment amener le citoyen à voter sur la base d'un certain nombre de principes et de valeurs, sur la base des programmes. Et est-ce que les candidats eux-mêmes présentent des programmes? Est-ce qu'ils ont une vision de développement? Parce que quand on dit du gouvernement du peuple par le peuple, c'est qu'une fois arrivé au pouvoir, on gouverne pour le peuple, pas pour soi. Or, mes prédécesseurs l'ont relevé qu'aujourd'hui, en tout cas, depuis l'avènement de la démocratie, à travers les différents régimes qui se sont précédés, et encore plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons le sentiment qu'on met un système où la gouvernance est faite au service de ceux qui gouvernent. Donc les citoyens, c'est eux qui sont soumis aux dirigeants. Donc le peuple, sa souveraineté est dévoyée. On a l'impression que les souverains, ce sont les gouvernants.
Alors qu'en démocratie, on parle de redevabilité.
On parle de redevabilité.
Ça veut dire que ce n'est pas une réalité,
non,
c'est ce que vous pensez.
C'est loin d'être une réalité parce que ça a été dit. Bon, on est dans un système où même les parlementaires qui sont censés, d'accord, agir au nom du peuple, n'écoute pas le peuple à plus forte raison et ils l'ont démontré pas à travers plusieurs faits, l'adoption des politiques antisociales, et l'adoption de beaucoup de mesures, de lois qui l'Assemblée, en fait, c'est une caisse de résonance.
Mais Abdoulaye Seydou,
c'est tout ce qui est soumis à l'Assemblée. D'abord, il est très rare qu'on ait des députés qui de par leur propre initiative, initie des lois.
C'est vrai que le Parlement, il faut le souligner, a également qualité pour faire des propositions de loi.
Voilà, voilà. Et c'est quelque chose de très rare. Et tout ce que le gouvernement quand même envoie, ça passe. On a vu dans ces pays, et tout récemment, les députés disent et donner une suite favorable au gouvernement pour quand même l'installation des bases militaires sans pour autant eux-mêmes avoir connaissance du contenu des accords, sans savoir quelles sont les obligations qui reposent sur cette partie, en cas de violation, quelles sont les contreparties, quel est la durée et le mandat, etc. Donc, les députés n'ont même pas besoin aujourd'hui de savoir le contenu d'un texte pour l'adopter quand c'est le gouvernement qui l'envoie à l'Assemblée. C'est ça la réalité. Donc, de notre point de vue, ce sont des faits qui illustrent à quel point le peuple, et sa souveraineté est dévoyée. Et donc, il lui appartiendra de se battre, d'accord, pour faire en sorte que les lois de la République soient respectées. C'est-à-dire que la souveraineté appartienne de manière effective et dans les faits, dans les actes de gouvernance au peuple. C'est cela la démocratie. Vous avez parlé également de la question de la redevabilité. Donc aujourd'hui, l'obligation pour les dirigeants de rendre compte au peuple de leur mandat. Nous avons aujourd'hui une ordonnance qui parle de l'accès des citoyens aux documents administratifs et à l'information. Aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas de mécanisme institutionnel de redevabilité fiable, mais même les lois qui permettent aux citoyens d'avoir accès à un certain nombre d'informations, de documents, dans les faits. Nous avons vu même le budget, qui est l'acte le plus banal. Son accessibilité, souvent, ça cause des problèmes,
le y compris pour les organisations de la société civile qui travaillent. Il y a cependant cette disponibilité au moins du journal officiel, qui est, on peut dire, le canal officiel de l'État en tant que personne morale pour communiquer.
Le journal officiel, qui en a accès ? Le peuple nigérien, c'est les 24 millions. Le journal officiel, est dans les carcans de la présidence, où l'accès, même pour un citoyen éveillé, est problématique, à plus forte raison et d'autres qui sont dans les autres contraintes. Aujourd'hui, depuis plus d'une décennie, on nous parle de la numérisation des actes du journal officiel. Jusqu'à présent, c'est un discours pied, on n'en avance pas. Des montants même ont été débloqués jusque-là, merci aucune beaucoup. Avancée.
C'est vrai, Abdoulaye,
donc c'est ça la réalité.
Pour avoir accès, en tout cas, au journal officiel, il faut faire l'effort de se déplacer. Et avec des projets de numérisation, tout pourrait peut-être apparaître sur Internet en un clin d'œil. Mahamane Bacha, il faut rappeler que l'article 3 de la Déclaration universelle sur la démocratie, dont nous commémorons le 25e anniversaire ce jeudi 15 septembre 2022, dispose qu'en tant qu'idéal, la démocratie vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix. En tant que forme de gouvernement, la démocratie est le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs. Elle est aussi le seul système politique apte à se corriger lui-même. Convenez-vous que la démocratie est le système qui favorise le plus cette justice sociale, le développement économique et social de la collectivité, la cohésion de la société, ainsi que la tranquillité nationale et la paix sociale.
Oui, en principe, puisque si on regarde de par les deux pendants, c'est-à-dire le pendant institutionnel et la finalité, en ce qui concerne le pendant institutionnel, le principe de séparation du pouvoir devait permettre à toutes les institutions de contribuer à part égale à la vitalité de cette démocratie et en toute indépendance et dans la plénitude de leurs prérogatives. Tout à l'heure, Idi vous a expliqué jusqu'à quel point cette plénitude de pouvoir n'est pas du tout effective quand on regarde le niveau d'inféodation des autres institutions au pouvoir exécutif. En principe, et comme le disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps Obama, qu'en fait, on a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais malheureusement, dans le principe ici francophone, où le centralisme politique et administratif est accru, le pouvoir exécutif régente finalement tous les autres pouvoirs et il les inféode. De sorte que même les plus intègres des fonctionnaires qui veulent véritablement travailler dans le sens de l'intérêt général, avec intégrité, fermeté sur l'intérêt général, ils ne parviennent pas à faire long feu parce qu'il y a tout un mécanisme par lequel on peut arriver à les phagocyter, à les ridiculiser et à les isoler. Vous avez besoin, en tant que citoyen, quand vous êtes en face d'un fonctionnaire, que vous ayez l'impression que c'est un fonctionnaire qui est là, qui agit au nom de l'État et donc dans le sens de l'intérêt général, qui ne vous regarde pas qui vous êtes et quels sont vos rapports d'intérêt personnel entre vous. Des rapports partisans, des rapports familiaux et autres. Mais est-ce qu'il en est le cas ? Parce que les nominations elles-mêmes, elles sont entachées de ces principes partisans-là. Donc le deuxième pendant, puisque je vous ai parlé du problème de séparation du pouvoir qui n'est pas effectif, le deuxième pendant, c'est en ce qui concerne la viabilité donc des institutions elles-mêmes. Et cette viabilité-là, elle est directement liée au comportement des citoyens et à ce qui régente le processus politique lui-même. Le processus, tout à l'heure, vous avez suivi, mes deux prédécesseurs ont souligné jusqu'à quel point il est entaché, il est corrompu, il est mal compris par nos concitoyens. Et très souvent, quand les résultats sortent, les gens sont perplexes entre ce qu'ils pensaient être le résultat et ce qu'ils voient concrètement. Donc, de ce point de vue-là, si chaque fonctionnaire devait courtiser le pouvoir exécutif pour avoir la promotion qu'il fait au cours de sa carrière, il est évident qu'il sera un fonctionnaire aussi tout aussi fantoche et inféodé parce que tout simplement, il pense que là où il est n'est pas un processus méritocratique, mais plutôt un processus de faveur. Donc, il doit être redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont amené à cette place-là. Donc, ce qui fait que les institutions, comme les citoyens, deviennent, si vous voulez, des guignols qui sont en train de jouer à la limite un rôle qui n'est pas conforme à ce qu'on a attendu.
Mohamed Bachir, vous parlez de guignol, on le disait à l'instant, il a parlé notamment de la question donc, des libertés qu'ont les citoyens. Mais la réalité, c'est que lorsque les structures veulent manifester et que cela leur est déclaré donc interdit par les collectivités, ce qu'on peut aller vers la justice. Les décisions qui sont rendues, c'est très souvent la justice qui confirme. Donc, est-ce qu'on ne peut pas parler de cette existence réelle du pouvoir judiciaire?
Oui, mais le principe est là. La règle, elle est simple. En matière administrative, quand vous faites face à une décision qui ne vous convient pas, soit du fait de son caractère illégal ou de son caractère arbitraire, vous pouvez d'abord exercer ce qu'on appelle un recours gracieux. C'est-à-dire
auprès de la même autorité.
Voilà, la même autorité qui a pris l'acte, vous lui écrivez pour lui dire en raison de tel fondement ou de tel principe, cette décision-là qui a été prise n'est pas fondée au regard de la loi et vous demandez à l'autorité concernée de rapporter sa mesure et de déclarer votre activité ou votre choix ou votre, disons, besoin comme étant légal et juste. S'il ne répond pas, voilà.
C'est ce que le mouvement M62
voilà, voilà. Maintenant, s'il ne répond pas, et malheureusement, le délai est souvent long, puisque c'est un délai de 2 mois. S'il ne répond pas, donc, au bout de 2 mois, on considère que la réponse est négative. Donc là, vous attaquez devant la juridiction concernée selon les types de violations. Par exemple, si c'est en matière administrative, c'est vous allez attaquer d'État. Devant le Conseil d'État pour recours pour excès de pouvoir. Normalement, lorsque vous faites constater justement les violations des règles, le juge est tenu. Ce n'est pas une histoire de vouloir. Il est tenu. Parce qu'il n'est tenu qu'à l'autorité de la loi. À partir du moment où on a choisi de jouer ce rôle-là, il faut l'accepter dans sa plénitude. C'est comme si vous acceptez d'être militaire, mais dès qu'on déclare la guerre, vous dites que vous démissionnez. Donc, c'est pas... Non, vous êtes au front. Quand vous acceptez d'être fonctionnaire, vous êtes là, vous vous êtes livré pour défendre l'intérêt général. Et malheureusement, aujourd'hui, du fait de ces calculs de nomination, des intérêts, des indemnités et même de postes juteux, puisqu'on entend parler de postes juteux, les gens sont prêts à pratiquement dévoyer leur rôle, à pouvoir en fait se comporter en guignol par rapport au rôle qui est attendu d'eux. Et c'est pourquoi les citoyens sont dépassés quand ils voient certaines décisions, quand ils voient certains comportements. Ils ne se sentent pas véritablement citoyens de leur propre pays. Et finalement, les gens ont comme l'impression qu'ils sont en train de devenir des sujets dans une démocratie pourtant, comment on appelle ça, état de droit, comme on l'a dit. Tous ces débats-là que nous faisons, la finalité, c'est de parvenir à un mieux-être et que vous vous sentiez vraiment à l'aise dans votre propre pays et que vous vous sentiez égal à n'importe quel autre citoyen comme vous. Quand vous avez des mérites, qu'on vous les reconnaisse et quand vous faites des fautes, qu'on vous sanctionne. C'est ça que les gens attendent. Mais malheureusement, vous voyez, maintenant, ça fait 10 ans qu'on a le pétrole dans ces pays-là. On dit que le Niger est un pays producteur du pétrole. Mais est-ce que vous vous sentez que nous avons du pétrole dans ces pays-là? Et pourquoi on ne peut pas nous expliquer ce qu'on fait de notre pétrole et qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'amélioration des conditions d'existence?
La démocratie demande donc beaucoup de choses, la question de la bonne gouvernance, l'égalité devant la loi de tous les citoyens, ça veut dire qu'ils sont au même pied d'égalité, même traitement. Très souvent, certains se plaignent que ce n'est pas le cas. El Hadji Diabdou, quelles sont les autres pratiques à promouvoir pour un meilleur enracinement de cette démocratie au Niger?
C'est pas le même parlement là. On a demandé la levée d'immunité d'un député qui est impliqué dans un trafic et la mise en accusation, ils ont refusé. Mais vous voulez quoi de ces gens-là? Mais ces gens, c'est eux qui ont consacré l'impunité dans ce pays, c'est le Parlement. S'ils disent qu'on ne va pas poursuivre le député parce qu'ils ont refusé de lever son immunité, on ne va pas poursuivre le ministre parce qu'ils ont refusé de faire la mise en accusation. Mais ça veut dire qu'ils ont consacré l'impunité. Sans séparation de pouvoir, il n'y a pas de démocratie.
Merci beaucoup. Nous entamons la dernière partie de ce forum de Studio Kalangou et pour thème la démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques. Rappelons qu'en 2021, le Niger a occupé le 125e place sur 167 pays classés au plan mondial et la 31e place sur 50 pays classés au plan africain en termes d'indice de démocratie, un classement qui s'était basé sur des indicateurs de l'année 2020, soit peu avant les élections générales. Abdoulaye Seydou, quel est aujourd'hui votre rôle en tant qu'organisation de la société civile nigérienne dans le cadre de la promotion de la démocratie au Niger?
Au niveau de notre organisation, le REPAD, nous avons 4 axes d'intervention, dont les 2 axes sont relatifs à la bonne gouvernance, à la démocratie et à la participation des citoyens donc dans la définition des politiques publiques. Et à cet égard, au-delà de l'éducation citoyenne, sur les questions des droits humains, des démocraties, donc la promotion, la vulgarisation des instruments, nous créons également des espaces de dialogue et de débat, et même des espaces de redevabilité entre les gouvernants et les citoyens autour de la conduite des politiques publiques. Mieux aujourd'hui, nous avons en tout cas mis en place un mécanisme au niveau de notre organisation qui s'appelle le Présimètre. Le Présimètre qui est un outil de monitoring citoyen, donc des politiques publiques et plus particulièrement des engagements du président de la République. C'est 5 axes prioritaires. Donc à travers ces dispositifs, nous faisons chaque 45 jours des enquêtes de sondage sur l'ensemble du territoire national autour d'un certain nombre de politiques publiques et nous produisons des rapports et engageons des débats entre les citoyens et les décideurs autour de ces questions. Et au-delà de ça, nous avons également mis en place avec une quarantaine d'organisations de la société civile le prix de la société civile donc pour la redevabilité sociale, qui vise également à identifier l'institution publique le plus en phase avec les questions de bonne
gratitude. On voit qu'il y a beaucoup d'actions, Abdoulaye, puisqu'il ne nous reste qu'une poignée de minutes en réalité. Merci beaucoup, Mahamane Bachar, juriste. Quelle doit être alors cette contribution de la société civile dans le cadre de la promotion de la démocratie au Niger?
Nous intervenons sur 3 axes, la démocratie, les droits humains et le développement, parce que nous sommes un regroupement d'une quarantaine d'organisations. Donc en matière de démocratie, c'est principalement les questions du processus électoral, les suivis, les formations donc des candidats, des élus, etc., les suivis du processus politique de manière générale, et nous participons au débat. Et nous faisons des contributions pour d'autres organisations, en tout cas sur ces questions-là. En ce qui concerne les droits humains, c'est principalement les questions d'abus du pouvoir qui nous intéressent, donc que ce soit sur les individus ou de groupes, que nous appuyons, nous conseillons pour qu'ils connaissent un peu les mécanismes de recours par lesquels ils peuvent exposer leurs prétentions et avoir gain de cause. Et principalement, ces questions d'esclavage et autres là nous intéressent au premier plan. En ce qui concerne les questions de développement, c'est principalement les questions de renforcement des capacités de communauté à la base qui nous intéressent. C'est-à-dire, nous prenons un certain nombre de sujets d'actualité et de besoins de premier plan pour les populations sur lesquelles nous faisons donc des formations à la carte et nous faisons des accompagnements.
Vous avez donc à votre actif beaucoup d'actions.
Non, beaucoup d'activités.
Oui, on ne peut pas les citer toutes.
On ne peut pas les citer, puisque en fait, rien que la participation au débat, c'est énorme. Mais moi, j'ai dit,
et ces les organisations sont importantes pour la société,
très essentielles et c'est des activités qui sont faites de manière gratuite, citoyenne et participative. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les organisations de la société civile, en tant que groupe de pression et contre-pouvoir, pas contre le pouvoir, mais contre-pouvoir, apportent beaucoup par rapport à la vulgarisation des principes démocratiques et par rapport à la conscientisation des citoyens, malgré en fait les comportements maladifs de certains à vouloir restreindre coûte que coûte l'espace civique et civil pour pouvoir imposer leurs règles aux autres et transformer les citoyens en simples sujets qui doivent impérativement accepter tout ce qui est décidé par les autres. Les organisations de la société civile donc jouent ce rôle de contre-pouvoir là et ils continuent à les jouer avec beaucoup de détermination. Je salue beaucoup de camarades qui 30 ans durant sont restés pratiquement les mêmes jusque là par rapport à certains principes et règles.
Nous sommes dominés par le temps.
Par contre, il y a un certain nombre d'améliorations à apporter au niveau de certains comportements de certains acteurs. Puisque nous sommes dans une société, de la même manière que vous voyez la société politique ou l'administration pourrie, corrompue, il y en a aussi au sein de la société civile. Et c'est cette tendance-là à s'inféoder à d'autres types de pouvoirs pour gagner, pour avoir des gains personnels, individuels, dans l'action que les organisations...
Ça veut dire qu'en tant qu'acteur de la société civile, vous convenez qu'il y a des gens qui sont à la solde d'autres personnes.
Non, il y a une éthique, oui, il y a quand même des comportements non éthiques. Rien que la désignation de représentants des organisations de la société civile dans les institutions, c'est des processus dévoyés où pratiquement un seul individu peut venir avec 17 arrêtés et puis il fait passer quelqu'un comme représentant de la société civile, quelqu'un qui ni par la formation, ni par l'engagement, mais par même l'objet de son organisation n'est pas conforme en fait à l'institution dans laquelle il est censé siéger. Donc quel est l'apport qu'il peut apporter au sein de cette institution-là?
Merci beaucoup. Et là, j'ai dit Abdou, quelles sont aujourd'hui vos attentes en tant qu'acteur de la société civile nigérienne en vue d'une amélioration de cette contribution de la société civile dans le renforcement de la démocratie?
La contribution de la société civile est plus que jamais nécessaire dans un pays où le gouvernant devient le souverain. Dans un pays caractérisé par l'impunité, il n'y a que la société civile
c'est qui peut jouer le contre-pouvoir. C'est essentiel, mais ça a été dit, c'est que la société civile a la particularité de ne pas chercher à conquérir le pouvoir. Mais aujourd'hui, est-ce que la société civile est réellement pleinement consciente?
Oui, la société civile est bien consciente. Il y a des brebis galeuses qui utilisent ça à d'autres fins, c'est très facile de les cerner et ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Ils ne peuvent pas continuer à tromper les gens, ils ne trompent personne.
Merci
et nous attirons l'attention des
compris.
Citoyens. Leur rappelons qu'ils sont les seuls souverains et qu'ils ont délégué le pouvoir et qu'il leur appartient d'exercer leur souveraineté pour leur intérêt.
Merci beaucoup, ça fait partie donc de vos attentes. C'est donc également un appel à l'endroit de tous les citoyens au nom desquels vous parlez également. C'est la loi qui vous autorise cela en tant qu'acteur de la société civile, puisque la défense ici, elle est celle de l'intérêt commun, l'intérêt général.
Merci beaucoup. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème la démocratie au Niger, quelle contribution de la société civile dans la promotion des bonnes pratiques. Nous retenons que la démocratie, c'est donc le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une formule très célèbre d'Abraham Lincoln. La démocratie exige beaucoup de valeurs telles que la question de la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, pas de discrimination mais plutôt la promotion de la justice sociale, la liberté d'expression, liberté de manifestation. Nous avons donc plusieurs valeurs qui sont à ce niveau défendues par ceux qui font la promotion de la démocratie. Nous étions donc en compagnie de Mahamane Bachar. Il est juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Elhaji Diabdou, acteur de la société civile nigérienne, et Abdoulaye Seydou. Il est également acteur de la société civile nigérienne, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD, et coordonnateur du mouvement M62. À la modération de ce forum de ce soir, je suis Michel Deji. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.